Jacques Meunier, bonjour.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Vous êtes de retour dans les studios de France Culture. C'est un grand plaisir pour le Journal des Idées. Et ce matin, Jacques, la crise sanitaire au menu, le confinement, puis le déconfinement progressif nous ont amenés à prendre en compte l'importance subjective et sociale de nos corps. La rentrée qui s'annonce devrait approfondir cette expérience avec la distanciation physique maintenue et le port du masque étendu à l'espace public.
Paradoxalement, c'est dans l'immobilité et l'isolement que la dimension existe. L'existentiel de la chair s'est manifesté, observe Camille Froide-Vaumétry sur le site AOC. En faisant disparaître les visages et en maintenant l'éloignement des corps, les précautions pour éviter la seconde vague retardent le retour à la normalité relationnelle de nos existences. C'est que, ajoute la philosophe, nos corps ne sont pas de simples organismes que nous mettrions en mouvement comme des machines. Ils ne sont pas les objets de notre volonté. Nous n'avons pas de corps, nous sommes nos corps. Et de citer Merleau-Ponty dans la phénoménologie de la perception, mon existence comme subjectivité ne fait qu'un avec mon existence comme corps et avec l'existence du monde. Ainsi, la conscience que nous avons de nous-mêmes, des autres et de notre environnement commun, tout comme le sens que nous donnons à ces trois dimensions subjectives, relationnelles et objectives, sont inséparables de notre expérience vécue de la corporéité. D'où le fait que la désensualisation des rapports humains, due au respect de la distanciation sociales nous conduisent à saisir paradoxalement et par défaut l'importance de l'intersubjectivité. Nous vivons dans l'illusion de l'autonomie personnelle, souligne la philosophe, persuadée d'être des individus souverains et indépendants, sans comprendre que ce n'est que dans la relation à autrui que nous sommes véritablement autonomes et libres. C'est la force de l'intersubjectivité façonnée au travers des interactions sociales, au niveau élémentaire des réponses émotionnelles et incarnées. Et c'est pourquoi le malaise que nous ressentons à ne pouvoir retrouver les autres qu'à distance et masqué est un malaise proprement existentiel. Déposséder des modalités incarnées du lien à autrui sans pouvoir ni toucher, ni embrasser, ni même sourire, nous endurons une injonction proprement inhumaine, conclut Camille Froide-Vaumétry. La dernière livraison de la revue Sensibilité, publiée par les éditions Anamosa, explore la chair du politique et les aspects émotionnels de l'engagement et de l'action collective. Montesquieu avait déjà formé l'hypothèse selon laquelle chaque système politique correspond à un modèle de passion politique, rappelle Ludivine Bantigny, Déborah Cohen et Boris Gobille. L'honneur est le principe monarchique, la vertu, celui de la République, la crainte, celui du despotisme. Mais l'invention, au cours du second 19e siècle, de la figure du citoyen électeur a relégué les formes de l'émotion partisane au bénéfice du modèle de la civilité électorale, une dévalorisation de l'émotionnel qui s'est traduite par la relégation des registres populaires d'énonciation du politique. Je cite « Les candidatures ouvrières ont fait l'objet d'un travail de délégitimation visant le langage familier, les excises corporelles populaires, les expressions passionnés qui y étaient engagés. On peut rappeler l'origine commune des mots « émeute » et « émotion », mais Antoine Lilti évoque pour sa part et discute la thèse de l'historienne de la Révolution française Lynn Hunt, selon laquelle les droits de l'homme ne reposent pas sur un discours rationnel et philosophique, mais sur une nouvelle sensibilité, sur le mécanisme émotionnel que les psychologues appellent « empathie » et que l'on appelait plutôt au XVIIIe siècle « sympathie ». C'est particulièrement vrai sur la question de la torture comme outil pénal ou de l'esclavage. Les actes de la recherche en sciences sociales s'intéressent au rôle politique des affinités dans le processus électoral. Face à la sophistication croissante du travail de rationalisation présidant à la conquête des suffrages, sondages ciblés et autres logiciels d'identification des électeurs précédant les pratiques de porte-à-porte, la montée de l'abstention, la défiance affichée à l'égard des institutions politiques, la raréfaction des militants sur le terrain redonnent toute leur valeur au groupe primaire d'appartenance des citoyens et aux sociabilités ordinaires, famille, amis, collègues. Lorenzo Barostella, Martin Baloge, Clémentine Bergeau, Safia Dani et Anne-France Teclet ont mené l'enquête dans un quartier à la fois populaire et gentrifié du 18e arrondissement de Paris. Le titre de l'article résume leurs observations. observation, voter entre soi et contre les autres, alors que les partis politiques concentrent leur mobilisation dans la partie bourgeoise du quartier, entérinant ainsi sans barguigner le faible intérêt pour les campagnes dans les classes populaires périurbaines. Dans la partie plus déshéritée de l'arrondissement, au pied de Montmartre, c'est l'expérience des discriminations, notamment raciales, qui suscite la politisation.